L'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Au nom de Jésus. Quand ils approchèrent de Jérusalem, près des villages de Bethphagé et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant deux de ses disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin » et il va le renvoyer tout de suite ici. » Ils partirent donc et trouvèrent un âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur demandèrent, « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et ces gens les laissèrent aller. Ils amenèrent l'âne à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire à Dieu ! » Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi vous, aurait déjà pu vivre l'expérience du déjà-vu ? C'est-à-dire cette sensation d'avoir déjà été témoin et d'avoir déjà vécu une sensation présente, comme si vous l'avez déjà vue dans une vie antérieure, comme on dit. C'est cette impression-là que j'ai eue en lisant ce texte de l'Évangile ce matin. N'avez-vous pas remarqué dans ce récit que les choses sont d'une précision extraordinaire dans ce que Jésus dit ici. Tout ce que Jésus avait donné comme consigne aux deux disciples qu'il a envoyés se sont déroulés exactement à un millimètre près. Il n'y a pas plus, pas moins. Le timing est parfait. L'endroit est précis. Les paroles dites sont exactes. Le scénario, tout concordait avec ce qui s'était réellement passé. Ceci explique par une simple raison, Jésus ne fait que suivre une feuille de route. Jésus entre à Jérusalem sur un âne. Le choix n'a pas été fait au hasard, c'est pas parce qu'il voulait y monter. Cela a déjà été prescrit dans le livre de Zacharie, comme nous venons de lire tout à l'heure, qui disait « Sois transporté d'allégresse, Sion la belle, lance des acclamations Jérusalem la belle, il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre et monte sur un âne, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, 9. Tous les faits, tous les gestes, ainsi même les paroles que Jésus a prononcées sur la croix, que je viens de lire tout à l'heure dans le psaume 22, n'est pas sa parole, mais ça a été déjà prescrit à l'avance. Tout ce que Jésus prononçait montrait qu'il est venu dans ce monde pour accomplir le dessein du Père dont il s'en est approprié. Et c'est ce que nous avions déjà entendu dimanche passé. Jésus, le Fils de l'homme, vient dans le monde pour apprendre ce que c'est que l'obéissance. Il obéit à la lettre. Jésus lui-même avait dit ceci dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota. » Vous savez ce que c'est qu'un iota dans la lettre hébraïque? Il y a juste un point. Même pas ce point sera oublié. Pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire, je vais accomplir tout ce que le Père a écrit dans la feuille de route pour le salut de l'être humain. En d'autres termes, ce que Jésus nous fait comprendre, qu'en tant que parole incarnée, il est la parole incarnée, il est venu dans ce monde pour accomplir à la lettre toutes les paroles qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament concernant le Messie et le Sauveur du monde. Un Messie ne vient pas avec ses grandes airs comme nous avons l'habitude de voir dans le monde. Vous avez entendu dimanche, c'est pas un super-héros, il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. Un Messie vient pour accomplir ce que le Père lui a dit. Jésus n'est pas là pour se mettre en avant, afin que les gens l'acclament, même si les gens le disaient « Hosanna, Hosanna ». Ce n'est pas du tout son principal objectif. Il est là pour accomplir le plan du salut préparé pour le monde. Certains pourraient avoir une lecture de premier degré en voyant Jésus monter à Jérusalem, sur cet anneau, comme étant une glorification, une reconnaissance de son titre messianique. Mais Jésus sait pertinemment ce qu'il attendait. Il appréhendait ce moment. Savez-vous que Jésus, quand il était sur cet anneau, il était dans une douleur. Car à plusieurs reprises, il avait dit que le moment n'était pas encore venu, et là, c'est le moment. Nous commençons la Semaine Sainte aujourd'hui. À vrai dire, la passion du Christ commence au moment du dimanche du Rameau, parce que le Christ y souffrait déjà en montant à Jérusalem. Le moment de la passion commence ici, car la scène que Jésus voyait est douloureuse. Nous, les lecteurs, nous voyons peut-être des gens qui acclamaient Jésus, mais savons-nous pourquoi ces gens-là, ils étaient là, ce jour-là? Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que nous sommes ici dans l'événement de la fête de Pâques, du Pécha, pardon. Pâques, oui, bien sûr, c'est Pécha en hébreu, c'est la fête juive. Chaque année, au tout début du printemps, Pécha commémore la sortie des Hébreux d'Égypte, libérés de l'esclavage de l'Égypte. Et cette fête était devenue très politisée à l'époque de Jésus. Car il y avait une croyance à l'époque qui s'est formée autour de cette fête de Pâques juive que peut-être l'Éternel va susciter une libération de son peuple face aux Romains. Et donc ce qui explique l'engouement de toute la foule ici, ils ne sont pas venus pour acclamer Jésus. Ils ne sont pas là pour vénérer Jésus. Ils ne aiment pas Jésus. Ils viennent là pour eux, dans un but précis. Et cette scène est très forte, car dans les deux côtés, le peuple avait espéré beaucoup de choses de la part de ce Jésus comme étant le Mashiach, le Messie, selon leurs attentes. Mais savez-vous, vous savez tous, bien que moi, ils se sont vite détournés de lui. La preuve, au moment où Pilate avait fait choisir Jésus ou Barabbas, c'est cette foule qui a clamé « Hosanna, Hosanna » qui a dit « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Mais Jésus, de son côté, il sait pertinemment qu'il ne faut pas attendre grand-chose de cette foule. Ce sont tous des hypocrites. Ils viennent là pour eux, ils viennent là pour leur vie, ils viennent là pas pour Jésus. Imaginez quand vous savez que toute cette foule qui vous acclame ne vous aime pas. C'est une douleur. Jésus n'est pas du tout content, mais il dit « Je dois boire cette coupe amère ». Et il sait que même ses disciples vont l'abandonner. Il est au milieu d'une foule tout en étant seul au monde. Et c'est encore plus grave, la liesse de cette foule est trompeuse. Il sait très bien que leur « Hosanna, Hosanna », vous savez que ça veut dire « Hosanna, Hosanna »,« Sauve-nous, sauve-nous ». Voilà la traduction. C'est pas « Alléluia hein », non. « Sauve-nous, moi d'abord, sauve mes enfants !» Chers amis, je me tourne vers vous, moi aussi y compris. Quel type de Jésus cherchez-vous? L'évangéliste Marc nous interpelle à ne pas imaginer un Jésus sur mesure. Il nous propose un Jésus selon les Écritures comme ici, mais pas selon l'attente d'une croyance populaire ou d'une attente populaire. Nous pouvons constater par nous-mêmes qu'il existe des croyants qui sont juste dans l'extase, dans l'engouement du moment, mais qui peut s'estomper d'un jour à l'autre dans leur foi. Il se peut que tu fasses partie de ceux qui le louent. Hosanna, Hosanna, Alléluia, Amen. Que tu loues, que tu danses, qui chantent Dieu, qui étendent leur manteau comme cette foule. Ils ont mis tous leurs vêtements devant. À l'apparence humaine, on dit « Waouh, c'est une foule acquise à Dieu ». Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas si sûr que cela, car Jésus n'était pas dupe. Il savait que c'est un amour par intérêt. Il savait le but derrière de tout ça. Et c'est incroyable, parfois, même derrière nos soi-disant dévouements pour Dieu, nous cachons une motivation impure. Eh oui, même le dévouement le plus honorable aux yeux de la société cache de l'impureté. Et seul Dieu peut faire la distinction. Peut-être la société te donne 19 sur 20, 20 sur 20 même, mais Dieu voit, il n'est pas sincère. Il a un calcul derrière la tête. Mais ce qui me frappe dans cette belle image de la montée de Jérusalem, c'est le contraste donné par l'auteur entre les personnes qui sont très démonstratifs en étendant leur manteau sur le chemin de Jésus. Et il y a une autre personne qui est presque inconnue dans cette histoire. Parfois, vous ne l'avez pas vu dans la lecture. Le propriétaire de l'ânon. Il n'est même pas prononcé son nom. Il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, qui n'est même pas mentionné dans le texte, mais regardez, il a donné son ânon sans demander quelque chose en retour. Il a cédé son animal pour que Jésus puisse y monter. Je vais vous donner une petite énigme. Connaîtriez-vous l'identité de cette personne qui avait donné l'ânon? Qui est cet individu? Si on va jouer un peu les Sherlock Holmes. Qui est cet individu qui a donné? Or, il n'y a aucun nom qui est annoncé. Je vais vous donner un indice. C'est la même personne, toujours dans le même chapitre, à qui Jésus avait encore envoyé deux disciples. La scène se répète. Pour préparer la Pâque, il a envoyé deux disciples. Vas-y, allez-y dans tel village. Vous allez rencontrer quelqu'un. Demandez-lui une pièce pour préparer la Pâque, le jeudi saint. Et vous trouverez tel endroit. Et Jésus avait donné presque la même prescription en leur disant d'aller dans cette ville. Vous allez rencontrer un homme. Et il a même donné une précision. Un homme qui va porter une cruche d'eau sur sa tête. Sans indiquer le nom. Et lui dire où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Comme si Jésus avait déjà fait une réservation à l'avance. Dites-lui comme je vous l'ai déjà dit. Et il vous montrera une grande chambre à l'étage. Incroyable comme précision, non? Aménagée et toute prête. Comparez ces deux récits avec notre péricope maintenant. C'est exactement la même chose. Non seulement la même situation, mais il s'agit toujours du même individu. Donc c'est le même propriétaire de l'annon et le même propriétaire de la salle pour Jeudi Saint. Qui est, selon vous, cette personne? Vous avez une idée? Alors, je vais vous le dire. Quand un auteur ne nomme pas le nom d'un personnage dans son récit, c'est une façon de faire glisser au lecteur que cette personne n'est autre que l'auteur. C'est Marc. C'est Marc. Et il ne faisait pas partie des disciples. Il faut le souligner. Là où je veux en venir, la foule qui a porté des choses pour accueillir Jésus, en démontrant au monde que nous aimons Jésus, regardez, et comparé à ce personnage effacé, on ne connaît même pas qui il est, qui accueillait Jésus, mais le motif de leur accueil est complètement opposé ici. Vous imaginez, mettez-vous un peu à la place de Marc, quelqu'un qui vous donne une consigne pour ne pas dire de l'or, un ordre. Le maître a besoin de ta voiture et de ta maison. J'aurais du mal à dire oui, hein. Et vous ne posez même pas la question, qui est ce Jésus, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi, quel est le contrat, combien ça coûte? Non. Vous voyez ici la différence entre les deux, la foule instrumentaliser ce qu'elle avait, ses manteaux, pour attirer l'attention de Jésus, pour amadouer Jésus, pour répondre à leur appel au secours, tandis que Marc ici se met au service du Seigneur sans rien demander. Voilà deux attitudes complètement opposées. Chacun a donné ce qu'ils avaient, mais l'autre se mettait en avant. L'autre utilise ce qu'il donne comme appât et l'autre donne ce qu'il avait comme offrande. D'où la thématique de notre thème culte aujourd'hui. Es-tu une offrande pour Dieu ou es-tu un appât? Nous aussi, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous invite, frères et sœurs, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. » qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Amen.